9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, tenez-vous. Alors, je sais pas si on va se tenir droit ce matin avec mon invité, Ibtissène Belmadani. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous.
Donc, là, masseuse et kinésithérapeute, on peut le mettre au féminin.
Oui.
Bien. Nous allons parler des postures ce matin.
Ça fait.
Bon. Toutes les postures, d'ailleurs, là, je suis en train de me dire, tenez-vous droit. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans leur voiture. Est-ce qu'il y a une bonne position pour conduire?
Tout à fait. On a une bonne position pour conduire. Alors déjà, il y a une bonne manière de rentrer dans sa voiture. Premièrement, il faut pouvoir ouvrir sa portière bien de face, venir s'asseoir en ne cherchant pas à s'enfoncer dans sa voiture. Bien plier les jambes, bien se caler contre son fauteuil, avoir un petit coussin lombaire pour respecter la courbure des lombaires. Et puis,
Coussin, c'est dans tous les cas?
Pas forcément. Il y a des personnes chez qui ça va pas être nécessaire puisqu'ils ont déjà une cambrure et une tonicité dans le bas du dos qui fait qu'ils tiennent leur courbure normalement. Et d'autres, non, pour qui il faut le rappel de cette courbure.
Bien. On va s'intéresser à toutes les postures. On va commencer par les postures du sommeil. Mais finalement, on se couche comme on est le mieux installé.
Tout à fait.
En règle générale, on se met là où on préfère, là où on est le mieux.
Mm-hmm.
Et c'est bien ou c'est pas bien ça?
Alors, il y a une posture spécifique à éviter. C'est celle qui est sur le ventre parce qu'elle impose beaucoup de contraintes au niveau du rachis cervical. Et c'est-à-dire qu'elle torsionne le cou et en fait le fait de rester toute la nuit comme ça, ça induit des contraintes qui vont agir ensuite à force chaque nuit sur nos cervicales.
Pourtant, c'est ce qu'on conseille aux ronfleurs.
Sur le ventre?
Ouais, de dormir sur le ventre.
Ah bon?
Ouais, parce que c'est ce qu'on leur dit parce que sur le ventre vous ne ronflez pas.
Alors la position sur laquelle on va le plus ronfler c'est sur le dos, mais par contre si on est sur le côté, en l'occurrence le côté droit qui est le plus adapté. Parce qu'il n'y a pas d'écrasement au niveau du cœur, vu que le cœur est à gauche. C'est la meilleure position pour s'endormir.
D'accord.
Alors, il y a une particularité chez les personnes qui ont des problèmes de dos. On va privilégier de mettre un coussin, par exemple, entre les jambes et se positionner en chien de fusil sur le côté avec un coussin entre les jambes.
Ouais, mais de toute façon, on reste pas forcément dans la position dans laquelle on s'endort.
Oui. Alors, ça, c'est la position d'endormissement. Après, c'est vrai qu'on change de position dans la nuit, mais il y a possibilité de s'éduquer à vraiment se mettre dans une position dans laquelle ce sera le moins abrasif et, en l'occurrence, sur le côté droit.
Donc, pour s'endormir, dormir, c'est sur le côté droit.
Ouais, de préférence.
Ouais, de préférence. Ouais. Faut l'apprendre aux enfants, ça, parce qu'on l'apprend pas du tout.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et de même qu'on n'apprend pas aux enfants à respirer assez tôt par le nez. Et la respiration naso-nasale, c'est-à-dire inspirer par le nez, expirer par le nez, dans le sommeil, influe sur la qualité du sommeil. Et la position influe sur cette respiration.
Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur la façon dont on dort, oreiller ou pas oreiller?
Alors oui, il faut être très confortable pour dormir. La qualité de la literie, la qualité de l'oreiller est très très importante. Alors oreiller, on va dire, il y en a qui vont dire oui, il faut que ce soit à mémoire de forme, d'autres qui vont dire il faut que ce soit dur, d'autres qui vont dire qu'il faut que ce soit mou. Alors en fait, c'est celui qui sera le plus confortable pour vous, de sorte que votre tête, votre colonne cervicale et tout le reste de votre dos soient alignés. Il ne faut pas qu'on soit le cou cassé vers la droite ou vers la gauche, ou trop en avant ou trop en arrière.
Longtemps, on nous a dit qu'il fallait dormir à plat. Hein.
Alors, il y en a qui aiment dormir à plat.
À même sur une planche, en fait.
Personnellement, je dors sur un futon, ça me convient très bien.
Ouais.
Mais c'est vraiment au cas par cas, à chacun son confort.
À quoi ça sert de surélever les jambes?
Alors, chez les personnes qui ont des troubles de la circulation, lymphatique ou veineuse, ça va servir à améliorer la circulation. Après, c'est pas forcément une position qui est commune à tous. C'est vraiment spécifique aux personnes qui ont des troubles de la circulation. Alors, ce qu'on peut faire par contre, sans forcément surélever les jambes avec des gros coussins, comme on verrait dans des chambres d'hôpital, on peut incliner un petit peu le pied du lit par rapport à la tête du lit. Et en fait, on fait ça, par exemple, en mettant un gros dictionnaire sur le pied du lit ou un autre chose qui va permettre, ou une brique, quelque chose qui va permettre d'incliner un petit peu les pieds du lit par rapport à la tête.
Bon, à part sur le ventre, est-ce qu'il y a vraiment des conditions de couchage qui sont déconseillées?
Alors pour les ronfleurs, spécifiquement sur le dos, parce que ça va aggraver le ronflement. Et c'est pas le ronflement le plus problématique, c'est que à force de ronfler, on peut devenir apnéique, c'est-à-dire avoir de l'apnée du sommeil. Et là, il y a un risque. Mais après, ça devient du cadre de la pathologie et il faut être suivi par des spécialistes comme des pneumologues, etc.
Alors il y a quelque chose à laquelle on pense moins, c'est la façon dont on se lève en général. Le réveil sonne, les gens se lèvent sans vraiment réfléchir à la façon dont ils se lèvent. Donc, est-ce que c'est une étape qu'il faudrait penser ?
Alors, je dirais qu'il faut se lever du bon pied.
Alors, c'est quoi le bon pied ?
Déjà, il faut prendre le temps de prendre conscience qu'on se réveille, de s'étirer, de respirer 3-4 fois un bon coup profondément et vraiment faire le dos rond, dos creux comme un chat qui s'étire. Et puis ensuite, se lever en passant par le côté. Ne pas se lever directement du dos à la position assise parce que c'est trop abrasif au niveau des lombaires et on risque de se faire mal. Mais prendre le temps de passer de la position sur le dos à la position côté et s'aider des mains pour se relever.
Oui, donc c'est quand même réfléchi comme histoire.
C'est réfléchi, mais ça devient un automatisme à partir du moment où on l'a répété volontairement. Puis ensuite, à force de répétition, ça devient systématique.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que les bonnes postures, c'est déjà quelque chose qui s'apprend.
Tout à fait. Qui s'apprend qui se réapprend pour des gens qui s'apprend, depuis l'enfance et qui se réapprend quand, par exemple, on a eu mal pendant un certain temps à une zone du corps. On va faire ce qu'on appelle des compensations. On va faire en sorte d'éviter l'endroit où on a mal. Et le fait d'éviter fait que finalement, quelque chose qu'on devrait faire naturellement, on ne le fait plus naturellement, il faut le réapprendre.
Et peut-être qu'on crée un déséquilibre parce que justement, on compense.
Tout à fait.
Bon, donc le matin, réfléchissez quand vous vous levez. Est-ce que il y a un problème si on se lève directement, en fait? Est-ce que ça peut causer un dysfonctionnement?
C'est quand même un geste qu'on fait quotidiennement, même plusieurs fois pour ceux qui font des siestes, plusieurs fois par jour. Oui, ça peut avoir une conséquence comme la protrusion discale, l'hernie discale. La protrusion discale, vous ne savez pas ce que c'est?
Non, la protrusion discale.
Alors, la protrusion discale, c'est avant d'avoir une hernie discale. C'est quand, en fait, entre deux vertèbres, on a ce qu'on appelle des disques intervertébraux. À l'intérieur de ces disques, on a un noyau. Et ce noyau, quand il n'est pas encore sorti, mais que le disque commence à pousser vers l'arrière sur les vertèbres et sur les nerfs, c'est ce qu'on appelle une protrusion. Une fois que le noyau est complètement dégagé et qu'il est sorti, ce qu'on appelle une hernie. Il est sorti de sa place.
Et dans ces cas-là ?
Dans ces cas-là, aïe aïe aïe. il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Quels sont les 7 piliers des postures ?
Alors, les 7 piliers, ce qu'on appelle les 7 piliers des postures, en fait, c'est tous les organes et tous les éléments qui permettent d'avoir une bonne posture. Alors, le premier, c'est la vision.
Donc, c'est les yeux.
Tout à fait. C'est
les yeux. Je vois pas le rapport.
Vous portez des lunettes, Philippe. Vous devez savoir l'importance des yeux.
Ouais. Mais sur la posture.
Alors, comment sur la posture, c'est un effet important dans le sens où si on a une vue qui est pas bien corrigée, par exemple, on veut lire un bouquin, on est comme ça devant son bouquin, on fronce les sourcils, on a la tête penchée en avant, ça va agir sur le rachis cervical, ça va agir sur les omoplates, enfin les douleurs qu'on va avoir au niveau dorsal, et puis ça peut avoir aussi un impact jusqu'au niveau lombaire et même plus bas. Voilà. Donc du coup, faut avoir une bonne vue. Si on n'a pas une bonne vue, faut la corriger. Et il y a d'autres problèmes que la vue. Il y a l'équilibration des deux yeux, par exemple, chez des personnes qui ont ce qu'on appelle du strabisme, ce genre de choses. Et là, ça se rééduque avec un orthoptiste.
On fait de l'orthoptie, oui.
Voilà.
Mais passer un certain âge, c'est compliqué.
Tout se réapprend.
Mais c'est vrai que, par exemple, quand vous avez des corrections, que vous avancez en âge, finalement, et que vous portez des verres progressifs, se pose la question de l'ordinateur aussi. De l'ordinateur, des tablettes, la question de regarder sur un téléphone et de lire le journal. Puisque là, vous êtes toujours en train de soit d'avancer, soit de reculer, soit de...
Alors, je dirais que les écrans, c'est une belle technologie, mais que finalement, ça a apporté pas mal de problématiques au niveau postural, dans le sens où on ne sait pas tenir et se tenir devant des écrans. Alors déjà, devant un téléphone, le téléphone, on n'est pas comme ça, penché en avant avec l'écran en bas. On le met bien face à soi, incliné un petit peu à 20-30 degrés devant soi et à une distance du regard qui permette de voir s'il faut, on zoome plutôt que de se pencher vers le téléphone. De même pour les écrans.
C'est-à-dire qu'on ne baisse pas la tête, c'est ça que vous êtes en train
voilà,
de dire.
On ne baisse pas la tête
pour regarder son téléphone.
Voilà, parce qu'en fait, ça casse au niveau du rachis cervical. On a deux parties au niveau du rachis cervical. Le cervical, les cervicales hautes et les cervicales basses qui peuvent être dissociées dans les mouvements. Et en fait, il ne faut pas induire sur ces deux parties trop de flexion vers l'avant.
Donc, c'est devant. L'ordinateur,
bah pareil, au bureau, il doit être bien face à soi, à hauteur des yeux, incliné aussi un petit peu face à soi, à longueur, on va dire, d'une distance d'un bras devant soi. Il faut qu'on puisse toucher devant soi quand on voit l'écran. Et s'il faut que le bureau est trop bas, à ce moment-là, il faut rehausser un petit peu son écran avec un bouquin en dessous, ce genre de choses.
Tablette.
Tablette, pareil, comme les téléphones, à hauteur des yeux, incliné légèrement devant soi. On peut s'aider au niveau d'un fauteuil avec les accoudoirs pour pas non plus trop fatiguer les épaules, les bras, surtout pour les personnes qui ont des métiers ou des enfants, des métiers difficiles ou des enfants à porter, etc. Faut pas non plus trop surcharger.
Alors les jeunes qui vous écoutent doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Parce que c'est pas du tout ça qu'on fait. Oui, c'est pas ça qu'on fait.
Peut-être. Alors il faudrait apprendre. Et dans ces cas-là, peut-être se faire conseiller. Il y a plein de bouquins sur les postures. Les kinés sont là pour ça. Les ergothérapeutes, les psychomotriciens aussi. Dès l'enfance, ils apprennent les bonnes postures, les bons schémas moteurs aux enfants.
Donc on a dit les yeux. Ensuite.
Alors après les yeux, on a l'oreille. L'oreille, en l'occurrence, l'oreille interne avec le vestibule, qui elle est sensible aux différents positionnements de notre tête en fonction de comment notre tête est positionnée, soit penchée en avant, penchée en arrière. En fait, même les yeux fermés, on va savoir rien qu'à l'oreille comment on se situe dans l'espace. C'est pour ça d'ailleurs, il y a certaines personnes qui peuvent avoir, par exemple, des problèmes de dans la voiture, dans les transports, etc., ce qu'on appelle des nausées, etc., parce que leur oreille interne peut ne pas être bien réglée. Il y a certaines personnes qui ont des vertiges également. Donc il faut que l'oreille, alors là c'est plus du cadre de l'ORL qui va regarder s'il y a peut-être quelque chose qui impacte au niveau du tympan, au niveau d'une autre partie de l'oreille.
Mais c'est ça qui peut expliquer, mais alors donc il faut penser à l'oreille finalement.
Alors il faut avoir une bonne hygiène au niveau de l'oreille, ouais. Parce que si on a des bouchons, ce genre de choses, ça pose problème. Et je précise, une bonne hygiène, ce ne sont pas les cotons-tiges.
Alors pendant des années, alors c'est marrant parce que les messages changent quand même en fonction des années. Pendant des années, ça fait au moins 30 ans ou 40 ans qu'on utilise des cotons-tiges. Et là maintenant, on a l'impression que les cotons-tiges en bois, c'est devenu un objet de torture.
Alors, c'est vrai qu'il y a le risque quand même avec le coton-tige de, si on a un bouchon dans l'oreille, de l'enfoncer plus que de ne le retirer. Mmh. Et ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est plutôt les sprays à haute pression pour évacuer ce qu'il y a à l'intérieur de l'oreille. Ou la douche.
Mais l'esprit, c'est humide.
Oui, c'est humide. Mais en fait, on pense que mettre de l'eau, ça va.
Il y a beaucoup de gens qui pensent.
Noyer l'oreille, voilà, qu'en fait, ça va la nettoyer plutôt que la noyer.
Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir de l'eau dans les oreilles, en fait.
Oui. Ça s'apprend. C'est pareil que le reste.
Les cotons-tiges seront bientôt, de toute façon, interdits. Hein.
J'espère.
Non, mais ça va être bientôt interdit. On ne pourra plus utiliser de cotons-tiges. Après l'oreille, nous avons...
Alors, après l'oreille, on a les dents et l'articulation temporomandibulaire. L'articulation temporomandibulaire, c'est l'articulation de la mâchoire qui se situe juste en avant des mâchoires, juste en avant des oreilles, qui nous permet d'ouvrir et mastiquer,
avant vos boucles
ouvrir,
d'oreille,
fermer
là.
La bouche. D'accord. Tout à fait.
Donc, à quoi ça sert, ça, et quel rôle ça a?
Alors, les dents, il faut avoir une bonne hygiène dentaire, se faire soigner les dents régulièrement, détartrer les dents, combler les trous quand on a des dents manquantes au niveau de la denture, parce que à chaque fois qu'on va mastiquer et qu'il y a une dent manquante, par exemple, on imagine une molaire supérieure à laquelle manque une molaire inférieure par la mastication, et ben en fait, on aura tendance à mâcher toujours du même côté. Mâcher toujours du même côté, ça va créer des contractures sur... imaginons que je contracte toujours du côté droite pour mâcher. Ça va créer des contractures à droite. Bah pareil, ça va déséquilibrer au niveau du rachis cervical, au niveau du reste du dos. Ça va peut-être faire des compensations au niveau de l'épaule. Je vais peut-être relever mon épaule, etc. C'est tout un effet mitraillette qui fait dès lors qu'il y a un déséquilibre au niveau de la mâchoire.
C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous consulter parce qu'il a mal quelque part, vous menez toutes ces investigations.
Voilà, tout à fait. Alors, j'ai oublié de dire que en plus de ça... Il y a une grande importance de la langue, la position de la langue dans la bouche.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire, expliquez-nous. parce qu'on réfléchit à la position dans laquelle...
Alors, la position de la langue, ouais. Il y a un consensus actuel qui est en cours d'étude et de stabilisation. Ce consensus dit que la position de la langue doit être langue au palais, c'est-à-dire le plat, la pointe de la langue devant, doit être au niveau de la pointe du palais. C'est-à-dire juste à l'arrière de nos incisives. Alors, je vais montrer, hein, histoire que vous compreniez bien. Si on ne sait pas où positionner...
Vous savez qu'on fait de la radio.
Oui.
Bon,
alors si
on va le filmer. Comme ça, les gens pourront vous voir, donc faire ce que vous faites avec votre langue.
Je le montre, c'est très simple. En fait, quand on ne sait pas où positionner sa langue, on tire la langue en avant, comme quand on tire la langue. Et ensuite, on va glisser la langue en raclant les incisives du haut. Voilà. Et ça doit se situer juste en dessous et derrière les incisives de la mâchoire supérieure.
Mais
voilà.
Personne ne réfléchit.
Parce que ça doit être normalement automatique. Mais vu qu'on ne mastique pas suffisamment depuis la naissance jusqu'à on engloutit, tout est ramolli, on ne mâche plus les aliments. Donc on n'a plus une langue suffisamment tonique. Lorsque la langue est tonique, elle se situe à ce niveau-là, là où je viens de dire. Pointe de la langue au palais.
Vous pouvez le refaire là parce que j'aime bien.
Donc c'est-à-dire, je le refais pour ceux qui ne savent pas.
Pour
on
la
tire
caméra.
La langue.
Ouais.
Là.
Donc elle est collée en voilà. haut, en haut.
Essayez Philippe, montrez-moi.
Je ne tire jamais la langue à la radio, ça se voit.
Donc voilà, ça c'est la position de la langue au repos. Et ensuite dans la mastication, la langue elle sert de cuillère pour ramener les aliments droite, gauche. On doit savoir mastiquer 7 à 8 fois de chaque côté normalement, prendre le temps de mastiquer. 7 fois d'un côté, 7 fois de l'autre, et plusieurs fois comme ça à chaque mastication.
On parle des postures ce matin. Nous sommes en train de voir avec vous. C'était très intéressant cette histoire de langue. Vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous pouvez d'ailleurs intervenir si vous avez des questions et appeler le standard à votre santé 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, les bonnes postures à adopter, les bonnes postures au quotidien, on en parle avec mon invité Ibtissem Belhamadi. Je rappelle que vous êtes masseuse, kinésithérapeute. On a vu la tonicité de la langue. Il y a des exercices pour faire travailler la tonicité de la langue.
Tout à fait. Mais j'ai assez tiré ma langue pour aujourd'hui.
Ah, c'est bon, on s'arrête pour les exercices. Alors, des messages qui arrivent. Dormir sur le côté droit pour les musulmans, c'est sunna. Donc, voilà. Donc, mais en plus, il y a une raison médicale.
Exact.
Que vous développez. Mm-hmm. Et effectivement, beaucoup de gens disent qu'ils mastiquent toujours du même côté. Donc là, effectivement, faut investiguer.
Voilà, et puis bien explorer toute sa bouche quand on mange, prendre le temps de prendre conscience de la manière dont on mange, et s'il y a des dents manquantes, vraiment se faire soigner pour combler les dents manquantes.
Mais finalement, quel est le risque de mâcher toujours du même côté?
Alors, c'est vraiment d'avoir de grosses contractures au niveau des muscles masticateurs au niveau de la joue. Ça va induire de l'arthrose au niveau de l'ATM, l'articulation temporomandibulaire du côté où on mastique le plus. Ça peut créer des luxations aussi au niveau de ces articulations-là. Et le disque, parce qu'on a un disque au niveau de cette articulation, peut, une fois qu'il est exclu, ne plus pouvoir repénétrer à l'intérieur de l'articulation. On peut se retrouver des fois avec la mâchoire bloquée. Ça arrive. Et au-delà de ça, au niveau de la posture, ça joue vraiment au niveau de la posture du fait que ça va induire des tensions au niveau du rachis cervical, au niveau des muscles entre les omoplates et plus bas.
Yeux, oreilles, dents. Quel est le quatrième pilier de la posture?
Ensuite, c'est donc le rachis cervical, le cou, en l'occurrence le squelette du cou, puis les muscles, toutes les parties molles avec tous les muscles qui sont postérieurs, latéraux, antérieurs et qui jouent énormément sur la manière de se tenir, soit le cou tiré en avant, le double menton, trop incliné d'un côté, de l'autre, etc.
Donc, dans ces cas-là, quels sont les exercices qu'on peut faire pour savoir si on est bien aligné, si on se tient bien?
Alors déjà, se regarder dans la glace, devant un miroir, et voir devant le miroir comment on se tient de manière naturelle. Est-ce qu'on a plutôt le cou incliné à droite, à gauche, trop en avant de profil, trop en arrière? Et en fonction de ça, essayer de corriger, parce que des fois, c'est les épaules qui compensent. On a l'impression que c'est le cou qui est trop incliné, mais en fait, finalement, c'est l'épaule qui compense et qui est trop relevée surutilisation au niveau du travail, le fait de toujours travailler à gestes répétés au niveau du bras. Ou bien le port de charge lourde ou port du bébé qu'on porte toujours du même côté. Pareil, Voilà.
Le sac à main aussi.
Le sac à main, pareil. Alors, je conseille.
Même s'il est pas très lourd.
Je conseille à tout le monde, que ce soit les gens qui travaillent en bureau avec leur ordinateur, que ce soit les adolescents qui veulent être à la mode, que ce soit les jeunes femmes qui veulent avoir un beau sac à main, de porter plutôt un sac à dos qu'un sac à main ou un sac en bandoulière. Et puis d'essayer d'alléger.
C'est sexy, hein, franchement.
Essayer
le sac
d'alléger
à dos,
au maximum. Mais d'être très beau sac à dos aujourd'hui, des sacs à dos en cuir, des sacs à dos de luxe. Il y a de très beaux sacs aujourd'hui. Mm.
Mais d'ailleurs pour les enfants, on est passé du sac à dos
au
sac à roulettes quand même.
Alors le sac à roulettes, c'est juste parce que les sacs d'école sont vraiment très chargés et qu'en fait on a privilégié le fait de faire rouler le sac, alors que finalement ça crée des torsions et ça peut abîmer également au niveau du dos et créer des scolioses chez les jeunes enfants en pleine croissance, parce que finalement il est toujours torsionné du côté du sac qu'il est en train de tirer. Mm. C'est peut-être mieux que d'avoir un sac lourd en bandoulière et être complètement incliné d'un côté.
Mais pour vous, le sac à dos est préférable au sac à...
Au sac à roulettes. Oui, tout à fait.
Ouais, bah ça, vous voyez, c'est, on a changé de message.
Tout à fait.
Finalement.
Tout à fait. Et ce sac à dos, il faut le porter vraiment près du corps, parce que s'il est loin, les lanières trop ouvertes, trop relâchées, le sac qui tombe en bas plus bas que les fesses, ça n'a aucun intérêt, parce que du coup, ça va trop positionner le dos en arrière.
Position pour téléphoner.
Alors, position pour téléphoner, moi je conseillerais plutôt d'utiliser le kit main libre pour avoir déjà l'écoute des deux oreilles. Écouter par ses deux oreilles, c'est important. Et puis ensuite, surtout quand on travaille en bureau, quand on est occupé à faire plusieurs choses, ne pas faire justement plusieurs choses en même temps, sauf si on peut mettre les oreillettes. Sinon, éviter vraiment la position du téléphone, l'oreille sur le côté, l'épaule relevée, etc. Parce qu'à force de répétition, surtout dans les postes de secrétariat, etc., on répond beaucoup au téléphone. Ça peut vraiment créer des lésions et des fois irréversibles. On voit parfois des personnes qui sont sifosées ou le cou complètement sifosées, c'est-à-dire qui ont le cou, les dorsales trop courbées vers penchées et voûtées vers l'avant.
Mmh. Et ça, on peut pas le rattraper finalement.
Il y a certaines personnes qui ont fait pendant, imaginons, une carrière.
Alors une personne qui téléphone, là, quel exemple meilleur type de ce qu'il ne faut pas faire.
Elle ne tient pas si mal que ça.
Il y avait ça quand.
Ah, j'avais pas vu. D'accord.
Et donc,
très bien. Ouais. Donc du coup, oui, il y a certaines personnes, ça va vraiment être irréversible dans le sens où, imaginons quelqu'un qui a travaillé 40 ans dans un secrétariat médical, par exemple, et qui a toujours pris l'habitude d'être incliné sur le côté, l'épaule relevée pour tenir le téléphone, ça peut avoir un impact sur lequel il n'y a plus de choses à faire.
Après le coup.
Après le coup, il y a le pied. Le pied, alors, première chose, il faut penser à bien se chausser. Bien se chausser, c'est très important. Les ballerines, c'est à proscrire complètement. Parce que c'est trop.
Alors attendez, pourquoi c'est moi on m'a dit que c'était les talons. Alors,
oui, mais je commence par les ballerines pour pas trop embêter les jeunes femmes.
Donc,
qui
qu'est-ce
ont envie
que
d'être...
ça, les ballerines?
Alors, les ballerines, c'est certaines ballerines, pas toutes, mais certaines ballerines sont vraiment trop plates à ras le sol. Autant marcher pieds nus, finalement, que mettre une ballerine. Et en plus, des fois, le bout au niveau des orteils, c'est un bout en pointe. Pareil, ça écrase les orteils. Ça vous crée des hallux valgus, c'est-à-dire l'orteil qui va partir sur le côté vers l'intérieur, le gros orteil qui part sur le côté vers l'intérieur du pied. Ça crée des durions, des corps au niveau des orteils, etc. Le fait d'être trop à plat va affaisser ce qu'on appelle la voûte plantaire. C'est le creux qu'on a à la plante du pied. Et cette voûte plantaire est hyper importante pour bien dérouler le pas quand on marche. Mmh. Et voilà. Et en fait, ça endort ce réflexe de dérouler du pas. Le fait d'être trop à plat. Il vaut mieux marcher pieds nus qu'avec une ballerine. Les chaussures à talons.
Alors attendez, je vais rester sur les chaussures à plat. Il y a les Converse aussi. Vous savez,
qu'est-ce que vous avez reproché aux Converse?
Non, je ne sais pas si elles sont trop à plat ou pas, les Converse.
Alors, ça dépend les semelles. Il y a plusieurs types de Converse. L'inconvénient des Converse, ce que je conseillerais plutôt, c'est vraiment quand on fait ses lacets au niveau des Converse, quand elles sont montantes, de pas trop serrer au niveau de la cheville, parce qu'il faut que le coup de pied soit libre de mouvement et puisse être tonique naturellement, avoir un tonus postural naturel. Voilà.
Donc attention aux chaussures montantes, il faut pas trop serrer
au niveau de la cheville.
Quand on a les pieds plats, ce que vous avez dit pour les ballerines, c'est vrai?
Alors non, les ballerines, elles font de belles pointes. Elles ont travaillé. Je parle des ballerines danseuses. Hein.
Ah ouais, allez,
elles ont travaillé leurs pointes de pied. Mais sinon, que voulez-vous dire par rapport aux ballerines?
Les gens, parce que c'est une chaussure à plat, vous avez dit. Mais les gens qui ont plus les pieds plats,
oui,
et qui mettent ce genre de chaussures, à quoi est-ce qu'ils s'exposent?
C'est encore pire. C'est est-ce que le pli soit complètement affaissé et qu'ils travaillent plus du tout au niveau des muscles, ce qu'on appelle l'aponévrose plantaire et les autres muscles de la voûte plantaire, et que du coup ces muscles-là soient pas toniques, donc complètement flasques, quoi. Vous avez la voûte plantaire complètement flasque.
Pour les sportifs, oui, est-ce qu'il faut avoir une paire de chaussures avec lesquelles on fait le sport et une paire de chaussures qu'on utilise dans la vie ou pas?
Tout à fait. Effectivement, une chaussure de ville n'est pas une chaussure de course. Une chaussure de course doit avoir des capacités à amortir les chocs, etc. Sachant qu'il ne faut vraiment pas avoir de paire de chaussures avec des grosses bulles. Alors les chaussures avec les bulles, c'est complètement à proscrire. Avec des bulles d'air.
Pourtant, ça a l'air très confort.
Alors, c'est hyper confortable, c'est vrai. Mais par contre, c'est très perturbant pour les capteurs de la proprioception, c'est-à-dire les capteurs de l'équilibre de la voûte plantaire. Parce qu'en fait, ça vous donne l'impression d'être toujours avec un coussinet voluptueux sous le pied. Alors qu'en réalité, le pied est tout à fait capable d'être tonique et adapté au sol de lui-même. Donc du coup, ça parasite la réception jusqu'au cerveau de la manière dont on est posturé.
C'est-à-dire que donc, plus la semelle est confortable et épaisse, c'est pas un gage de meilleure tenue pour le
Alors,
pied.
Alors, épaisse n'est pas bulle d'air, parce que bulle d'air, c'est mou. C'est épais, mais c'est mou, et ça rebondit une bulle d'air. Alors que l'épaisseur tonique, ça sera autre chose. Et on va conseiller plutôt une épaisseur entre 1,5, 2, voire 3, 4 cm de talonnette.
Pourquoi est-ce qu'on conseille, Iptissem, de toujours courir avec la même paire de chaussures de sport, par exemple?
Alors, parce qu'on a un type de voûte plantaire qui nous est propre. Et que déjà par rapport à ça et par rapport au type de sport qu'on pratique, par rapport à la manière dont on marche, dont on court, il faut vraiment avoir une chaussure qui nous soit adaptée. Et pour courir en l'occurrence, on a différents types de pieds les plus communs. On appelle un pied pronateur, un pied qui va aller se tourner vers l'extérieur, vers le haut, et un pied supinateur, un pied qui va aller vers l'intérieur et vers le haut. Si on a un pied supinateur vers l'intérieur et vers le haut, il faut mettre une semelle qui va un peu compenser ce qu'on appelle une semelle pronatrice. Et quand on a un pied pronateur, une semelle supinatrice. Et alors là, il faut vraiment se faire conseiller par un spécialiste, soit un podologue qui est spécialisé en posturologie, stabilométrie, ou sinon un spécialiste dans un magasin de sport qui vraiment vérifiera la manière dont se place votre voûte plantaire.
C'est une bonne idée de changer de chaussures avant une compétition, par exemple, ou une course?
Pas du tout. Il faut courir avec la même paire avec laquelle on s'est entraîné le jour J de la compétition, pour un footeux, pour un trailer, etc.
Pourquoi?
Parce que en fait, tout notre corps, de notre voûte plantaire à notre cheville, à nos genoux, nos hanches, nos dos, les impacts qu'on impose sur notre rachis, vont s'adapter à cette semelle qui nous est propre et qui nous convient bien. Et si le jour J on change complètement, et surtout si l'effort est long et intense, alors là on peut faire vraiment de gros dégâts, type tendinite, on peut se faire mal aux ligaments, enfin voilà, ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact.
Donc à quel moment on doit changer de paire de chaussures de sport finalement? À quel moment on détermine que la paire est usée?
Quand on voit que après son entraînement par exemple, on n'a pas les mêmes, ou pendant son entraînement, on n'a pas les mêmes sensations qu'on avait d'habitude, quand on remarque qu'au niveau de sa semelle, il y a vraiment une usure, et surtout si l'usure est dissymétrique d'un côté par rapport à l'autre. Déjà, il faut se poser des questions, parce que ça veut dire qu'on n'appuie pas de la même manière à droite qu'à gauche. Et puis ensuite, oui, il faut que la semelle soit en bon état. Et l'intérieur de la semelle également, pas juste l'extérieur.
Bon, on a vu les chaussures à plat. Maintenant, pour les talons, quelle est la bonne hauteur de talons? Et est-ce que les talons, finalement, d'au-delà de 8 cm, c'est mauvais pour la posture?
Oui, c'est mauvais pour la posture, dans le sens où c'est trop haut au quotidien. Après, ça dépend. Si on veut se faire belle juste pour une soirée et que c'est juste histoire de quelques minutes à être debout. Mais alors, si c'est pour danser toute une soirée, ou sinon si c'est pour travailler toute la journée, effectivement, c'est pas conseillé. Dans le sens où ça va induire des modifications au niveau du dos. On a ce qu'on appelle au niveau du dos deux syphoses et deux lordoses. Les lordoses, on en a au niveau cervical, c'est-à-dire qu'on est cambré au niveau du cou et cambré au niveau du bas du dos. Et ensuite, on est voûté au niveau des dorsales et voûté un petit peu au niveau des fesses, ce qu'on appelle le sacrum et le coccyx. Et ces cambrures, elles ont une harmonie qui fait qu'on se tient droit par rapport à la gravité et la pesanteur. Et ça, c'est aussi lié avec ce qu'on appelle le tonus musculaire qu'on doit avoir. Le tonus musculaire, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout sans forcément induire un mouvement. C'est des micro-mouvements qui nous permettent de pas trop nous pencher en avant et de chuter en avant, pas trop se pencher en arrière et être complètement encombré et tomber en arrière. Et en fait, du coup, si on a une mauvaise position au niveau des pieds, soit trop plat, soit trop haut, bah du coup, nos cambrures vont se modifier. Ça va nous amener plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. On va devoir se fatiguer musculairement et donc créer des contractures musculaires, etc. Et après,
celle qui porte des talons, vous dire, ouais, mais c'est une question d'habitude. Moi, j'ai l'habitude finalement.
Oui, c'est vrai que c'est une question d'habitude parce qu'en fait, elles ont compensé de sorte à se créer ce petit plaisir de marcher, de marcher en talons. Mais bon, déjà pour le pied, c'est abrasif. Je défie toute femme de me dire qu'elle a des talons toute la journée et qu'elle est super à l'aise dans ses talons. Ça reste quand même rare. Et puis ensuite, oui, c'est aussi abrasif au niveau lombaire, au niveau de la totalité du dos.
Donc finalement, quelle serait la bonne hauteur ?
La bonne hauteur, elle est entre, on va dire, 2 à 4 cm de talonnette au niveau de l'arrière du pied.
Pour les enfants, comment on choisit les chaussures ?
Alors, il est bien de laisser les enfants être pieds nus le plus possible parce qu'en fait, il faut laisser les capteurs des pieds, découvrir les différentes textures du sol, les appuis au sol, etc. Dans la mesure du possible, donc le laisser pieds nus, même retirer les chaussettes si c'est possible, c'est encore mieux. Et puis une fois qu'on prend des chaussures, bah des chaussures plutôt souples. Alors après, on y met les magasins de chaussures pour bébé proposent des chaussures avec mémoire de forme, avec une semelle correctrice, etc.
Mais est-ce que ça quand ils sont bébés, ça a un intérêt?
Alors non, au contraire, parce qu'en fait, ça va déjà induire une type de posture du pied. Alors qu'en fait, naturellement, l'enfant de lui-même, son corps est capable de savoir comment son pied doit se positionner en fonction de sa stature et sa morphologie.
À partir de quel âge l'enfant, finalement, a son pied qui est définitif et sa nature de pied qui ne change plus?
Ben, en fait, c'est qu'une fois qu'il a fini sa puberté et sa maturité osseuse.
Donc oui, adolescence.
Voilà, l'adolescence, ouais. Ouais, parce qu'avant, finalement, c'est toujours en construction.
Bien, alors on a vu les pieds, qu'est-ce qu'il nous reste à voir après ?
Alors ensuite au niveau de ces piliers-là, j'ai mis piliers en parlant du tonus global du corps, en parlant de tonus musculaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens au niveau de leur ossature, au niveau de leur squelette, tout est ok, la voûte plantaire est ok, etc. Mais ils n'ont pas de tonus musculaire, et en l'occurrence, souvent, au niveau du tonus abdominal et au niveau du tonus des paravertébraux au niveau lombaire.
Donc, on en parlera de ce tonus abdominal tout à l'heure. Si vous voulez intervenir, posez vos questions à Ibtissem, 01 53 48 3000. Le standard est à votre disposition. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Il y a des moments dans la vie, je suis masochiste, vous voyez. C'est lundi, j'avais tout pour être heureux. Bim, je commence ma semaine avec Ibtissem, belle maladie.
Oh, voilà. C'est tellement gentil, Philippe.
Voilà. Je la déteste, en vrai, dans la vie, mais bon, voilà, j'ai dit, je l'ai accueillie.
Tu aimes bien, châtie bien, c'est ça?
C'est vrai. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, je vous déteste.
C'est vrai, en plus.
Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai dit, vous, je vous déteste.
Non, tu m'as pas dit ça.
J'ai
vous
dit
m'avez
quoi
mis le seum.
Moi, j'ai dit ça. Non, là, c'est la traduction. Il y a toujours un moment glamour dans une émission, mais il faut y aller. Enfin, quand je dis qu'il faut y aller, oui, d'abord, il faut y aller.
Allons-y.
Et vous m'avez dit, pour faire caca, c'est la cata.
Voilà, exactement.
Bon,
exactement.
Alors, la posture.
Alors, la posture pour être au WC, en fait, et se soulager, il est très important, finalement, de proscrire les WC qu'on a tous chez nous, parce qu'en fait, c'est pas les WC les plus adaptés. Et si on n'a pas possibilité de changer, eh ben, en fait, il faut mettre un repose-pied pour pouvoir surélever les jambes et se retrouver dans la même position que dans des toilettes turques. Vous connaissez tous les toilettes turques ?
Ouais, alors, donc, ça veut dire que chez vous voulez que chez nous, on ait des toilettes turques ?
Alors, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal parce qu'en fait, la position où on est en fait accroupi, un peu en position crapaud, on va dire, vraiment ouais. accroupi au sol, ouais. C'est la meilleure position pour que le côlon et le rectum se retrouvent à peu près dans un bon alignement pour que la défécation se fasse simplement.
Vous le dites vachement mieux en fait.
Voilà.
Avec tous les mots qu'il faut. Ben alors le tabouret.
Le repose-pied, le petit tabouret, en fait, c'est pour permettre de
relever les jambes,
voilà,
donc.
De relever les jambes, mais se retrouver à peu près dans cette même position accroupie, en fait. Et avoir cet alignement de la fin du côlon.
Mais alors, pourquoi, avec ce que vous dites, depuis des années, les gens qui font les toilettes n'ont pas modifié la façon dont ils sont réalisés?
Parce que c'est juste une histoire de môme. Moi, je sais pas, demander à tous les concepteurs de WC. Je leur ai jamais demandé.
Non. Ouais. C'est un conseil qu'on a rarement, finalement. Ça.
Oui, c'est vrai.
Et puis, les gens n'aiment pas les toilettes à la turque, il faut être clair. C'est pas pratique, oui.
Ouais. Pourquoi c'est pas pratique?
Bah, je sais pas.
En tout cas, c'est beaucoup plus hygiénique.
Oui, on est d'accord. Mais là, on est en train de parler de position. Regardez, oui. si les gens ont choisir toilette à la turque ou toilette pas à la turque, voyez.
Ils choisiront les WC standards?
Ouais.
Ouais,
peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants, en fait.
Peut-être.
Finalement.
Bon, après, à choisir entre être constipé et avoir des WC adaptés, personnellement, je choisirais les WC turcs.
Bon, d'accord. Ou le tabouret.
Voilà, ou le tabouret.
C'est efficace, le tabouret.
C'est efficace, le tabouret. C'est plus passif que la position active dans laquelle on se met accroupi, parce que cette position active induit un certain tonus et du coup les selles peuvent descendre naturellement et on n'a pas besoin de pousser, parce que justement, comme dit madame le docteur Gasquet, il ne faut pas pousser ni pour les selles, ni pour accoucher, ni dans l'effort, ni dans le port de charge, etc.
On n'apprend pas ça
voilà.
aux gens.
Quand on pousse, quand on va à la selle, finalement, on se crée des hémorroïdes et d'autres pathologies, des protrusions, on abîme énormément notre corps, quoi.
Ouais, donc faut pas pousser.
Faut prendre le temps et pas pousser.
Et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, le tabouret, ça, en tout cas,
voilà,
on arrive
aide,
presque.
Voilà, ouais. Ça aide, mais passivement, justement, à être dans le confort. Dans ce moment au WC.
C'était bien ce petit passage glamour, hein.
Mm-hmm.
Bien. Par les abdos.
Alors oui,
c'est pas plus glamour les abdos. À quoi ça sert les abdos et pourquoi on en a besoin pour la posture?
Alors les abdos, je parle pas des tablettes de chocolat. Là, je parle vraiment des abdos profonds, des abdos qui nous permettent d'avoir un tonus, ce qu'on appelle le tonus postural, ce qui nous permet de nous tenir de manière endurante toute la journée, droit, équilibré, ni voûté, ni trop cambré. Et en fait, ces abdos doivent se travailler de manière endurante, parce qu'on a plusieurs qualités au niveau musculaire pour tous nos muscles. On a ce qu'on appelle la force, le volume d'un muscle, l'extensibilité d'un muscle, c'est-à-dire la souplesse et l'explosivité de muscle, par exemple chez les basketteurs, les volleyeurs, etc. Et on a aussi ce qu'on appelle l'endurance musculaire. Et l'endurance musculaire se travaille surtout pour tous les muscles profonds. Et donc du coup, quand on travaille ces muscles, il faut les travailler en travaillant dans la durée. Par exemple, en faisant du gainage, en essayant d'augmenter.
C'est ce que ceux qui ont des coachs font quand ils font du gainage.
Voilà, en faisant du gainage dans une position statique, on a beaucoup plus d'effets à moyen et long terme sur notre posture et notre bien-être que si on travaillait en faisant des répétitions de crunch, par exemple. On répète ses abdos et on fait pire que mieux.
D'accord. Donc ce sont des abdos qui ne se voient pas, qui ne sont pas esthétiques, qui sont profonds, mais qui sont très utiles pour la posture.
Ils finiront par être esthétiques, mais ouais. C'est beaucoup plus long et puis ce n'est pas l'effet indiqué, quoi.
D'accord. Est-ce que vous avez des exemples d'exercices que les gens peuvent faire chez eux, dans la voiture ou...
Je n'ai pas ma tenue de sport avec moi, mais sinon...
racontez-nous.
Sinon, oui, alors tout simplement...
Les auditeurs sont en train de vous imaginer en tenue de sport, là, tout de suite.
Je reviendrai une autre fois avec une tenue de sport et je montrerai si c'est possible. Déjà, vous tapez sur Internet gainage statique. Vous allez trouver la position de base de gainage où vous mettez ce qu'on appelle en position planche sur vos coudes. Poignets relâchés, le menton en double menton bien rentré, vous regardez vers le sol au niveau, vous regardez vers vos mains, et puis sur la pointe de pied, tout le corps est en planche et on tient. On peut tenir 15, 20, 30, 40, 50 secondes, il y en a qui tiennent 1 minute 30, 2 minutes 30, enfin voilà, en fonction de ce que vous êtes capable de faire la première fois que vous le faites, vous vous chronométrez jusqu'à ce que vous fatiguez ou ça commence à vous faire mal, et puis vous essayez au fur et à mesure chaque jour d'augmenter votre temps de quelques secondes.
Bien, on a fini les abdos?
Oui.
C'est quel est le dernier pilier de la posture?
Alors, le dernier pilier, c'est toute la sphère psycho-comportementale. C'est-à-dire que nos manières de penser, nos postures mentales vont influer sur nos postures physiques. Ça, il y a Michel Oudoul qui en parle très bien. En fait, il y a vraiment un effet sur les pensées négatives, par exemple. Si je me répète toute la journée, je suis nulle, je fais n'importe quoi, etc., etc. Bah forcément, je vais me voûter, je vais regarder vers le sol au lieu de regarder droit devant moi quand quelqu'un m'adresse la parole, au lieu de regarder le ciel, l'horizon. Et donc, du coup, à force, ça va finir par influer sur la manière de se tenir et avoir des effets qui peuvent aussi être irréversibles.
D'ailleurs, quand on n'a pas le moral, on marche, ça se voit, on traîne
voilà,
les pieds,
on est crispé également. Il y a beaucoup de personnes aussi avec crispation et stress, angoisse, qui vont aussi trop serrer les dents, ce qu'on appelle le bruxisme. Et là, ça, pareil, ça va avoir un effet sur le dos.
Alors, on pose des questions sur l'épine calcanéenne, Kesako Shkun.
Alors, l'épine calcanéenne, c'est une pathologie qui est induite par soit le poids de corps quand on est en surcharge pondérale, soit au niveau du mollet quand le muscle du triceps sural est trop tendu, trop dur, soit par un pied qui est mal chaussé. Et du coup, ou bien par une marche trop longue, trop répétée, etc. Faut savoir que le tendon d'Achille, beaucoup ne le savent pas, le tendon d'Achille qui est le tendon du triceps sural, donc le muscle du mollet, se termine sous le pied et non derrière. Ce qu'on voit derrière, la cordelette derrière dans notre cheville, sur notre cheville à l'arrière, ce n'est qu'une partie du tendon. La fin du tendon se termine sous le pied, au niveau du talon. Et c'est pour ça qu'il faut être confortable et avoir aussi une petite talonnette, on le disait tout à l'heure, au niveau du talon. Donc le fait que ce muscle soit trop raide va faire que le muscle va tirer sur l'os du calcanéum, ce qu'on appelle le calcanéum, c'est-à-dire l'os du talon, et de lui-même créer cette épine.
D'accord.
C'est-à-dire que
le
muscle va vraiment créer une ossification, une calcification au niveau de la pointe.
Donc c'est à l'arrière du pied, on est d'accord?
Non, pas à l'arrière.
Non.
Sous le talon.
D'accord.
Ça crée une épine, c'est comme une petite aiguille. Et cette aiguille, en fait, quand on marche dessus, c'est juste atroce. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui ne pouvaient carrément plus marcher pendant plusieurs semaines suite à une longue marche ou en ayant changé de chaussures ou en étant en surcharge, etc.
Donc on le prend comment en charge d'un point
Alors,
de vue?
Alors on le prend en charge en fonction de la cause. Si la cause c'est vraiment le triceps qui est trop dur, ben on va apprendre à s'étirer au niveau du mollet, s'étirer profondément, longuement, plutôt avec des postures longues. Sinon, si c'est un problème de voûte plantaire, on va tonifier la voûte plantaire ou plutôt l'assouplir s'il y a des contractures. Et s'il faut aussi changer de chaussage, on enverra la personne voir un podologue, un spécialiste de la posturologie aussi. Voilà.
J'aimerais qu'on termine sur les positions à adapter et à adopter au bureau, plutôt.
Okay.
Alors, donc déjà, au niveau de la chaise, mm-hmm. fondamentale.
Alors, il faut vraiment avoir les pieds qui soient posés au sol, déjà. Soit au sol, soit avec un repose-pied. Et la chaise doit être une chaise qui est confortable, plutôt avec des accoudoirs, parce que, surtout pour les personnes qui sont au bureau toute la journée, il faut des accoudoirs pour pouvoir poser ses coudes, être dans l'aisance au niveau des épaules et pas contracté au niveau des épaules. La hauteur de chaise doit être...
Alors, attendez, s'il n'y a pas d'accoudoir et qu'on a l'habitude de poser ses coudes sur la table, par exemple.
Alors, il faut vraiment que la table, elle soit rehaussée, de sorte que quand on pose ses coudes, comme je suis là, j'ai pas besoin de me pencher en avant pour poser mes coudes sur le bureau, mais plutôt que je pose mes coudes de manière détendue, de sorte que mes épaules soient complètement relâchées.
D'accord.
Voilà, donc ni trop haut, ouais. ni trop bas. Vraiment à hauteur, on va dire, à peu près du bassin. Voilà, au niveau du bureau. Alors, pour revenir à la chaise, quand on est debout, pour tester à quelle hauteur on doit la placer, elle doit être à hauteur, le siège de la chaise.
C'est pas facile.
Le siège de la chaise doit être positionné à hauteur en dessous de la rotule. La rotule, c'est le petit os plat qui est en avant du genou, ni au-dessus, ni en dessous. Vraiment juste en dessous de la rotule. Ensuite, le dossier doit être bien réglé de sorte qu'on puisse positionner son dos. Pareil pour ceux qui ont un problème au niveau lombaire, mettre un petit coussin lombaire pour vraiment garder la courbure physiologique des lombaires.
Appui-tête ou pas?
Non, parce qu'on risquerait de s'endormir au bureau. Sauf si vraiment on a un problème cervical, mais c'est pas une nécessité. Il faut juste que par contre on ait vraiment les dorsales qui soient bien positionnées, bien calées. Voilà.
Donc ça, c'est la position idéale. Il y a Karim qui est au standard et qui a composé le 01-53-48-3000. Karim, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission.
Il était temps que vous arriviez, Karim, parce que c'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Oui, en fait, c'est plutôt quelques propos de Madame Tiziane qui m'ont interpellé. J'ai des problèmes de douleur aux pieds. Quand je me tiens debout beaucoup, que je marche beaucoup, je souffre justement de douleurs au chevilles et ça m'arrive de devoir me reposer pendant une semaine pour que ça parte. Et je sais pas vers quel spécialiste en fait m'orienter justement.
Alors après, ça dépend.
Un orthopédiste, un podologue, je m'y connais pas du tout, c'est vrai que c'est un problème que j'ai jamais pris en charge, mais qui me fait souffrir de temps à autre.
Ok. Bonjour Karim. Donc d'après ce que vous dites, c'est une douleur qui est répétée, pour laquelle vous avez souvent besoin de vous arrêter et qui peut durer à peu près une semaine, c'est ça?
Oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce que c'est une douleur qui vous réveille la nuit ou plutôt une douleur de jour?
Non, rarement qui me réveillera. Enfin, ça m'a rarement réveillé une fois ou deux. J'ai vraiment eu mal parce que je me suis tenu debout pour du travail pendant une semaine, donc par la suite, c'est vrai que les douleurs me réveillaient la nuit, mais c'est rare.
Vous faites quoi dans la vie, Karim?
Je suis cadre en communication, donc événementiel, et ça arrive que parfois on est sur le qui-vive pendant un événement, des festivals par exemple, ou un truc comme ça.
Et vous piétinez quoi en fait, c'est ouais. Ça?
Oui.
C'est ça. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs causes. Ça se trouve, dans votre cas, il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est possible que vous ayez des troubles de la circulation qui font que votre circulation n'est pas bonne au niveau de vos jambes et que ça peut créer en fait des écrasements au niveau de votre mollet. Après, une autre chose, c'est que même si vous êtes beaucoup debout dans votre travail, ça reste quand même sédentaire dans le sens où vous êtes juste en train de piétiner et non en train de faire un sport cardiovasculaire, cardio-respiratoire qui vous permet de vous réoxygéner. Enfin voilà. Donc peut-être consulter déjà votre médecin pour lui en parler et puis lui sera votre médecin traitant et lui sera vous guider soit vers un podologue, un kiné ou autre pour améliorer votre situation. Mais ça se traite, voilà.
D'accord, je vous remercie.
Je vous en prie.
Merci Karim.
Bonne journée, au revoir.
Je n'ai pas demandé s'il était en surpoids, parce que est-ce que le poids, ça peut influer sur le fait, par exemple...
Bien sûr, le poids, la sédentarité, ça influe sur genre de douleur.
Hein, parce qu'effectivement, quand on piétine toute la journée, d'ailleurs on le sent, hein, quand on va dans un salon, justement, et qu'on fait le tour et qu'on piétine toute la journée, on le sent, ouais.
On ne pense pas à le faire, mais porter des bas de contention, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment très utile. Alors après... on peut aussi faire une petite activité sportive, physique, cardiovasculaire pour améliorer ça.
Alors attendez, parce qu'Ahmed, vous n'étiez pas encore à l'antenne, mais maintenant vous l'êtes. Bonjour et bienvenue Ahmed.
Oh, bonjour Philippe, je suis heureux de vous entendre et je vous félicite pour les émissions que vous faites le matin.
Bon, est-ce que vous êtes content Ahmed d'entendre Iptissem?
Ah, je suis très heureux même.
Ah, voilà.
Merci.
Je la salue d'ailleurs. Et j'ai d'autant plus que moi j'ai des gros problèmes de, comment on appelle ça, de posture. Et on me dit, enfin moi j'ai fini par, à force de chercher, j'ai vu des rhumatos, des machins, et en fait mes douleurs, c'est des douleurs posturales comme ils appellent quoi, ou de posture, de douleurs de positionnement positionnel, ou je sais pas comment ils appellent ça, voilà. Donc moi je voulais savoir si, parce que là c'est très très intéressant, vous avez écrit un livre, Tissem?
C'est à venir. Je n'ai pas encore écrit de livre, non. Mais pratique, je vois bien toutes les problématiques qui se posent par rapport justement aux postures au quotidien, dans les activités de la vie quotidienne ou dans le travail.
Oui, bien sûr.
Et vous êtes passionné par les postures, hein?
Comment ?
Vous êtes passionné par cette thématique de la posture.
C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup.
Voilà, donc parce que mine de rien, ce sont des gestes qu'on répète tous les jours et qui finissent par avoir une incidence. Donc c'est important.
Tout à fait. Moi, j'ai eu un accident parce que je faisais beaucoup de sport étant jeune, etc. Et là, je le paye cher. Je me suis fait faire une arthrose à un genou. Mm-hmm. Ça fait que je reporte sur l'autre un pied qui était valide. Du coup, j'essaie de faire vite.
Quelle est votre question, monsieur?
Pardon?
Quelle est votre question?
Elle est que j'ai actuellement mal à une épaule et je n'arrive pas à m'en sortir. Ça fait 6 mois, j'ai fait faire des infiltrations. Alors on me dit que je paye ce que je vous disais, le sport. Moi, j'ai des tendons, des ligaments qui sont pétés, quoi. Excusez-moi le mot. Voilà, et puis des tendinites, et alors la nuit ça me réveille, enfin je dors pas, ça m'énerve, je sais pas comment me poser, selon comment, j'allais dire comment j'oriente mon bras, j'ai très très mal ou un peu moins mal, j'arrive à dormir et hop, dès que je change de position, ça y est.
Alors d'après ce que vous dites, ce qui me semble important, c'est vraiment déjà de traiter votre épaule dans un premier cas, parce que si c'est vraiment une douleur qui devient atroce, irradiante, lancinante, etc., faut vraiment faire traiter votre épaule. Si les infiltrations n'ont pas marché, je vous conseille d'aller voir un kiné et vraiment faire une rééducation active, déjà antalgique, active, etc., pour retrouver les bons gestes, les bonnes postures pour déjà vous mouvoir, commencer à retrouver de la souplesse au niveau de votre épaule. Et en l'occurrence, un des sports qui peut être utile, c'est commencer à faire des exercices dans le petit bassin, à la piscine, sans forcément lever l'épaule, mais retrouver un petit peu de souplesse dans votre épaule, ça vous fera du bien. Et puis ensuite, peut-être faire une rééducation un peu plus globale pour vraiment retrouver votre posture globale. Vous avez l'air de dire que c'est un truc qui date et qu'il y a eu des conséquences depuis votre accident. Et à ce moment-là, il faut vraiment reprendre de la tête aux pieds, quoi. Mais petit à petit, les choses s'amélioreront.
Ben, j'espère, parce que bon, j'ai même été jusqu'à voir un chirurgien qui m'a dit, ah ben, je peux pas vous opérer parce que les ligaments, ils seront pétés, il faut faire. Alors, les kinés, j'en ai fait au moins 3 ou 4, je trouve pas quelqu'un qui vraiment me prenne en charge complètement, parce qu'en plus, ma posture au niveau droiture, j'allais dire, quand je suis debout, il faut des semelles spéciales parce que j'ai perdu, je suis déséquilibré, en fait. Il faut que je tombe sur quelqu'un qui pratique comme vous
Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui va pas au niveau de votre hygiène de vie et trouver les moyens de vous-même déjà, parce que les soignants peuvent vous aider, vous accompagner, mais ça ne viendra pas d'eux. Le bien-être viendra vraiment de vous ça ne viendra que de vous d'aller mieux, en fait. Donc vraiment trouver déjà des petites solutions au quotidien, peut-être aller prendre l'air, aller marcher, avoir une vie sociale agréable, etc. Votre bras, dans ces cas-là, vous n'en aurez pas forcément besoin, pour déjà retrouver de l'énergie et avoir l'énergie vitale nécessaire pour aller mieux.
Bon, vous reviendrez, Ibtissem et Yamed, vous pourrez reposer votre question. Merci d'avoir été avec nous. Demain, vous aimez les énigmes?
Yes, bien sûr.
Yes, vous aimez les énigmes.
J'aime les énigmes.
Demain, nous consacrons notre émission aux énigmes et vous pourrez nous tester et nous coller. À demain.
Okay. Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.